Rencontre littéraire, Václav Richter.
Le ciel est un café où brille la lampadaire et les anges jouent au billard. Voilà une métaphore qui a été inspirée au poète Constantin Bible par les cafés, car les cafés, et le café Pragois ne faisait pas exception, étaient toujours un terrain extrêmement fertile pour la vie littéraire. Aujourd'hui, je vais vous amener dans un de ces cafés Pragois, très célèbre jadis. Notre promenade littéraire nous mènera au café Arco. Jadis, il y avait à cet emplacement, tout près de la gare Masaryk au centre de Prague, une maison qui appartenait au poète Vít Ventulín de Turtelstein, qui était officiellement procureur du roi. Au XIXe siècle, on y a construit une maison de rapport dans le style néo-renaissance. C'est en 1907 qu'on a ouvert un café au rez-de-chaussée du bâtiment. Les travaux d'aménagement ont été confiés à l'architecte Jan Kotiera, qui devait devenir bientôt célèbre, et les salles ont été décorées par le peintre František Kysela. Le café Arco était né. C'était un établissement pour une clientèle aisée. Selon le dramaturge František Langer, il était élégant et orné de glace. Ses habitués se recrutaient parmi les boursiers et les commerçants, mais sa période de gloire est arrivée au moment où il est devenu le fief de ceux que l'écrivain Karel Kraus allait qualifier d'arconautes. Selon Gérard-Georges Lemaire, le café Arco était le grand lieu de ralliement des intellectuels de culture allemande. Il a écrit: ils sont opposés au pan-germanisme et combattent le chauvinisme et l'antisémitisme des Allemands de Bohême. Ils sont même résolus à se rapprocher des écrivains de langue tchèque. On compte parmi eux la fine flair de l'art romanesque, Oscar Baum, Otto Pieck, Johannes Urzigil, Paul Eisner, Max Brod, Franz Werfel, Paul Kornfeld, Egon Erwin Kisch. Milena Jasenska n'est pas la dernière à se joindre à ce cénacle. Cette femme qui affiche une androgynie tapageuse et qui n'a pas peur de scandaliser la bonne société ne craint pas de se retrouver au sein de cet univers masculin. C'est là qu'elle connaît Ernst Pollack, dont elle tombe éperdument amoureuse pour son malheur. Ajoutons que parmi les intimes de Milena Jasenska, il y aura aussi un autre membre de ce cénacle, Franz Kafka.
Kafka venait rarement au café,
se souviendra l'écrivain Johannes Urzigil.
Quand il venait, il prononçait des phrases en apparence simples. Elles sortaient de préliminaires interminables, de broussailles d'objections intérieures aux mille formes, d'abîmes dont même son meilleur ami, bien que sans conteste le mieux initié de nous tous, ne prenait conscience que grâce aux échos qui arrivaient des profondeurs. Ces phrases étaient des rocs. Mais les rocs ont une longue histoire qui émerge de ce processus océanique où sont issus du feu liquide évadé des profondeurs. Il pouvait se contenter de dire en conclusion « j'apprends, c'est tout ».
Après les Arconautes, c'est le groupe Deviatsil qui envahit le café Arco. Les membres de ce mouvement inventent la poésie pour les cinq sens, le poétisme. Le cercle réunit les poètes et les artistes tchèques les plus talentueux des années 20, Nezval, Seifert, Taiger, Hofmeister, Štýrský, Toyen, qui allaient dans quelques années subir l'influence du surréalisme. « Nous passions 2 heures entières, écrira Jaroslav Seifert, assis dans les cafés donnant sur la rue, et nous ne négligions ni le cirque ni le panoptique, car tout cela était conforme à notre nouveau programme artistique, quand l'art avait cessé d'être de l'art, quand Malevitch, avec son carré célèbre, avait mis un terme au développement de l'art figuratif. » Fin de citation. Les adeptes du poétisme ont condamné le roman social et lui préféraient les romans roses, et les romans d'aventure et proposaient au lecteur de le faire rêver pour oublier la réalité. Pendant un temps, le café Arco était le temple de cette nouvelle religion. Patricia Ronfola donne encore d'autres traits caractéristiques de ce mouvement. Au café, écrit-elle, leurs regards s'illuminaient de lueurs idéalistes à la pensée d'un mythe progressiste qui portait l'empreinte du futurisme italien. Ils se reconnaissaient dans le vitalisme, l'existentialisme authentique, des mélodies des cafés-orchestres, des rythmes lancinants du jazz qui s'élevaient au-dessus des cendres des concerts symphoniques. Ils trinquaient à la gloire conquise des affiches murales contre les tableaux anciens, des gratte-ciels et des transatlantiques. Le temps passe, les cénacles se forment et se dispersent, mais le café Arcot ne perd pas son prestige d'établissement artistique. Plus tard, il y a parmi ses habitués l'écrivain Edward Bass, les peintres Max Schwabinski et Willem Novak. Après la guerre, on peut y rencontrer le poète Jiří Kolář en compagnie de Jiří Kotalík, théoricien du groupe 42, mouvement qui cherche la poésie dans la vie de tous les jours et le paysage citadin. L'avènement du communisme et la nationalisation des restaurants et des cafés portent cependant un coup fatal au café Arcot. Les poètes et les artistes le désertent et se réunissent ailleurs. Si l'on continue à parler de cet établissement, c'est à propos de la renommée bien problématique d'un repère des gares du milieu. La dégradation continue aussi dans les années 80 et le café continue à perdre son caractère unique. Après quelques péripéties, le café est cependant restauré et rouvert au public. Il est néanmoins bien difficile de restaurer aussi son passé glorieux et son aura poétique. Il y a des choses qu'on ne peut pas ressusciter. Il est difficile de retrouver le temps perdu. Jaroslav Seifert le savait bien. Il a écrit dans ses souvenirs.
Les cafés de Prague, ce qui en subsiste aujourd'hui, ne saurait nullement témoigner de la vie des cafés entre les deux guerres. Ils avaient chacun leur genre, souvent très différents les uns des autres. Les plus calmes avaient une clientèle d'étudiants venus réviser leurs cours et de lecteurs de journaux qui avaient à leur disposition l'essentiel de la presse de toute l'Europe. Certains quotidiens étrangers s'y trouvaient le jour même de leur parution. Au centre de la capitale, les cafés étaient luxueux, fréquentés aussi par de nombreuses demi-mondaines. Les serveurs de ces établissements se faisaient raser de frais deux fois par jour, ce qui me semblait alors quasiment incroyable. Et puis, il y avait les cafés d'artistes. Dans nos cafés de Prague, nous n'étions nullement bercés d'ennui. Tout au contraire, il y avait là un brouhaha de conversations, des bruits de pas, de chaises et de fauteuils, entrecoupés d'un incessant tintement de vaisselle. Ils étaient donc tout sauf silencieux. On y venait pour discuter, échafauder des projets, se lancer dans des polémiques ardentes. Et je n'avais jamais l'impression d'y perdre mon temps.
Amené aujourd'hui au café Arcot, au lieu de la poésie et des arts. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Teresa Čistotová, réalisation technique, et à Aleš Krupka, prise de son.